Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Est-ce que vous consentez à vous rendre? Merde! La garde mort et ne se rend pas!
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale classique du cinéma. Nous aborderons entre autres le Waterloo de Sergueï Bondarchouk, édité par Colored Film et distribué par ESC. L'historien Johan Chanoir, qui intervient dans les bonus de cette édition de Waterloo, viendra nous causer de ce film. Nous ferons un petit retour sur Une merveille soviétique, édité par Artus Film, Sampo, d'Alexandre Pouchko. Puis nous évoquerons quelques classiques édités par Carlotta Film, à savoir Fleur pâle et Gonza, de Masahiro Shinoda, Visage écrit de Daniel Schmidt, Remorque de Jean Grémillon et un coffret consacré aux œuvres méconnues de Bellatar. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Lucie Mautier, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. À mes côtés, pour causer classique du cinéma, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Rolandi, le loup-garou picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut GG, bien évidemment, salut à toutes.
Eh bien mon cher Thomas Roland, je sais que tu es venu plein d'amour dans ce studio, plein d'amour pour Sergueï Bondarchouk, le cinéaste russe, soviétique d'ailleurs, comme on disait à l'époque, pour nous parler d'ailleurs d'un film tourné en anglais, sorti en 1970, là qui vient de sortir chez Colored Film, distribué par ESC Vidéo. C'est un film consacré à la fameuse déroute napoléonienne, Waterloo.
Je suis encore étonné aujourd'hui que ce cinéaste Sergueï Bondarchouk reste assez méconnu quand même, et parce que on n'en parle pas dans l'histoire du cinéma, enfin dans les cours d'histoire du cinéma, on n'en parle pas, tout du moins à mon époque on n'en parlait pas. On parlait d'Eisenstein, Dziga Vertov, Kuleshov, etc. Mais jamais je n'avais entendu parler de Sergueï Bondarchouk jusqu'à il y a quelques années, avec notamment l'édition de Guerre et Paix chez Montparnasse, qui est rééditée là, en Blu-ray chez Potemkin. Et donc là, nous avons l'occasion de découvrir Waterloo, donc, comme tu dis, une déroute napoléonienne. Waterloo qui est, pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de Sergueï Bondarchouk, qui est plutôt une mise en bouche, hein, parce que si vous voyez Waterloo avant Guerre et Paix, vous allez prendre une claque devant Guerre et Paix, qui dure 7 heures. C'est un film qui dure 7 heures, hein, je le rappelle. Waterloo commence par l'exil de Napoléon sur l'île d'Elbe et par son retour. Son retour, il veut absolument renverser Louis XVIII, hein, qui est joué par Orson Welles. Et son retour, à lui, il veut faire un coup d'éclat, il veut combattre les Anglais. Et ça va être en Belgique, à Waterloo. Et donc, Il est incarné par Rod Steiger. Rod Steiger qui ne fait jamais dans la demi-mesure. Mais peut-on faire dans la demi-mesure pour incarner Napoléon, un vrai mégalomaniaque, n'est-ce pas?
Tout à fait, d'autant plus que là, en la personne du duc de Wellington, il a un très grand acteur aussi en face de lui.
Le film dure 2 heures et sur les 2 heures, il y a plus d'une heure de bataille. Alors, 1 heure de bataille. Alors, je n'utilise pas souvent cet adjectif dantesque parce que je trouve qu'il est souvent mal employé, mais ces 1 heure de bataille sont effectivement dantesques. Parce que Sergueï Bondarchouk, c'est un maître de la mise en scène et de la démesure, à l'image du personnage qu'il met en scène à travers l'acteur Rod Steiger. Donc nous avons 1 heure de bataille, et ça rigole pas beaucoup, parce que c'est 1 heure de bataille, c'est sanglant. Il y a des morts, ça tombe comme à Gravelotte, là, ça tombe comme à Waterloo plutôt. Et c'est assez sanglant, c'est même parfois gore, et ça rigole pas. Et surtout, c'est au niveau de la mise en scène, au niveau des plans, c'est proprement dingue, quoi. Je n'avais jamais vu ça au cinéma. Avant Sergueï Bondarchouk, je n'avais jamais vu une telle mise en scène de bataille, et c'est proprement dingue. Il y a des plans d'hélicoptères, il y a un nombre de figurants incroyables. Mais alors, si vous prenez une claque devant Waterloo, préparez-vous, parce que Guerre et Paix, c'est encore pire que ça. Enfin, encore mieux. Pire, dans le sens mieux, j'entends.
Merci mon cher Thomas. Et oui, il y avait 16 000 figurants, ça rigole pas beaucoup quand même, hein, 16 000 figurants. Enfin, il y avait plus de 16 000 figurants, mais en tout cas la Russie, enfin l'URSS à l'époque, avait mis à disposition 16 000 soldats, de vrais soldats pour se camper les militaires durant comment dire, cette bataille homérique. Alors moi, ce que je te propose, mon cher Thomas, c'est de tout de suite, via cet outil magique qui est le téléphone, d'entrer en contact avec l'historien Johan Chanoir. Johan Chanoir qui intervient dans les bonus de cette édition du film de Sergueï Bondarchouk, donc Waterloo, sorti chez Colored Film. Et donc tout de suite, Johan Chanoir au micro de Culture Prohibée. Johan Chanoir.
Bonjour.
Alors Johan Chanoir, tu es déjà venu dans notre émission à plusieurs reprises. Tu es agrégé et docteur en histoire, chargé de conférences à Sciences Po, chercheur associé au Centre de recherche historique de l'EHESS. Tu as contribué au premier Prime Cut et tu es présent dans les bonus de cette édition du film de Sergueï Bondarchouk, Waterloo, où tu reviens longuement sur le film, son apport, enfin sur beaucoup de choses. Et moi, je voulais te poser une question déjà, c'est pour toi, toi qui es historien, quel est le regard justement d'un historien comme toi sur ce film de Sergueï Bondarchouk?
Alors moi je pense, en tant qu'historien, que c'est sans doute le meilleur ou un des meilleurs films sur Napoléon, de par sa qualité historique. Alors je vais prendre tout simplement un exemple d'une scène, c'est une scène au début du film, pour ceux qui vont le voir ou ceux qui l'ont déjà vu, c'est la scène où il dicte des lettres à des officiers ou à des personnes, etc., parce qu'il a repris le pouvoir, il marche... Il marche vers de nouveau la restauration de l'Empire, et donc il est dans une salle, il n'est pas encore sur Paris, il est dans une salle où il dicte des lettres. Et en fait, ça c'est très réaliste, parce que Napoléon a écrit près de 40 000 lettres dans toute sa carrière et sa vie, mais seulement 2% de sa propre main. Donc là, en fait, on a une vision très réaliste d'un empereur qui dicte, qui écrit, qui veut tout contrôler, c'est son grand défaut. Mais c'est une scène d'une rare historicité. Alors, on a l'impression que ça n'apporte rien, que c'est une pause narrative, mais au contraire, pour moi, c'est vraiment la scène symbolique par excellence du travail de recherche fondamental qu'a réalisé le réalisateur soviétique.
Bon, Napoléon est interprété dans ce film par Rod Steiger. Alors, l'interprétation de Rod Steiger fait débat chez les cinéphiles. Après, quand on connaît Rod Steiger, on sait quel type d'interprétation il donne habituellement à ses rôles. Et moi, je trouve que il fait quelque chose, moi, qui m'a quand même énormément impressionné. Et en particulier, cette manière dont il joue avec la fameuse main gauche de Napoléon. Je trouve qu'il le fait de façon assez admirable. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que je sais que c'est quelque chose qui travaille l'inconscient collectif, cette fameuse main gauche. Avait-il mal au ventre? Avait-il un problème à l'épaule? Enfin, il y a toujours eu plein de versions différentes, en fait. Et lui, il en fait tout autre chose, Rod Steiger.
Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, comme tu le disais, fort justement, il y a beaucoup d'historiens. Moi, je pense à Jean Tullard, qui est un grand historien de Napoléon Bonaparte, que ce soit aussi bien le consulat que l'Empire. Mais également, comme tu le sais, toi, un grand cinéphile, oui, parce qu'il a réalisé un guide des films absolument remarquable. Et en fait, il dit, à un moment donné, dans une de ses éditions sur le film de Waterloo, Rod Steiger est un Napoléon inattendu. Parce qu'en fait, il le trouve pas crédible. Moi, à mon sens, là, on a l'écho, comme très récemment avec le film de Ridley Scott, tu sais, avec Joaquin Phoenix, qui est pourtant un acteur remarquable. Les Français n'aiment pas qu'un étranger joue Napoléon Bonaparte. Je crois que, le cœur du problème, il est là. Parce que, comme tu le disais, Rod Steiger, en fait, il fait d'un mythe absolu Napoléon Bonaparte un homme. Un homme qui doute, un homme qui est faible, un homme qui est malade, qui est colérique, qui est drôle, puis colérique. Génial, dépassé. En fait, il humanise Napoléon Bonaparte, ce que personne n'avait fait avant. On a souvent insisté sur le côté génial de l'empereur, ce grand capitaine, ce nouvel Alexandre, si tu veux, mais jamais on a représenté, avant lui, un Napoléon humain. Et ce qu'il est, de toute évidence. Et la scène que tu décris avec la main, c'est aussi au début du film, c'est lorsqu'il rencontre les premières troupes envoyées par Louis XVIII, qui est interprété par Orson Welles, qui fait un rôle remarquable. Il a quelques minutes à l'écran, mais à peine d'ailleurs, mais en fait, il crève l'écran. Et donc, on le voit à un moment donné, donc il y a des soldats qui sont en face de lui, il y a l'armée de Ney, donc, qui l'a trahi, et qui a dit à Louis XVIII, donc Orson Welles, qu'il le ramènerait dans une cage en fer à Paris. Et donc, il y a un moment de confrontation absolument très très bien filmé, et on voit Napoléon qui marche, redingote ouverte, alors là la scène est splendide, telle qu'elle s'est passée certainement, et il a les mains derrière sa redingote, et on voit qu'il a peur. Alors qu'en fait, il ne présente aucun signe de peur, et les soldats qui sont en face de lui ne peuvent pas voir sa main, parce que sa main est dans son dos. Et là, je trouve que c'est absolument génial, parce que on voit un Napoléon, en fait, qui n'est pas aussi impérial, conquérant, déterminé, décidé. Il doute. Alors, il est vieux, déjà. Il est malade, il est fatigué. Mais là, toi, je pense que Rod Steiger, il a livré une interprétation absolument remarquable. Et comme tu disais, pour conclure, c'est quand même un grand acteur. On se souvient tous de la prestation dans Into the Heat of the Night, dans la chaleur de la nuit, en 68, qui lui avait d'ailleurs donné un Oscar pour le rôle d'un shérif raciste, et qui justement, un shérif raciste qui au départ est présenté un peu comme un être inhumain, qui n'aime pas du tout les Afro-Américains, qui est borné, buté, alcoolo, et puis au fur et à mesure de l'intrigue avec Sidney Poitier, il s'humanise, il se déracine en quelque sorte, et puis à la fin, ils repartent, Sidney Poitier repart dans un train, et en fait, ce sont deux amis. Donc là, je trouve qu'on voit vraiment la persona de Rod Steiger, et qui livre une interprétation à rebours de tout ce qu'on a pu faire avant.
D'ailleurs, Rod Steiger, alors en plus il donne, c'est un Napoléon qui est dépressif, qui doute, tout ça, oui, comme tu le dis, il le rend très bien, y compris, on a l'impression que Rod Steiger a vraiment la fièvre quand on voit le film par instant, qu'il est vraiment réellement malade. Et puis, il y a un contrepoint qui est incroyable, c'est ce Christopher Plummer, en Duc de Wellington, qui est, lui, également impérial, c'est le terme.
Exactement. Alors, tu sais, Christopher Plummer, il avait incarné en 64, dans le dernier péplum, avant le retour sur les écrans avec Gladiateur, l'empereur Commode. Donc, en fait, il est habitué au rôle historique. Mais alors, je trouve, comme tu dis, qu'il livre une interprétation absolument magistrale, parce qu'il il arrive à la fois à nous donner l'image, tu sais, très, très, très stéréotypée du flegme britannique. C'est quelqu'un qui ne s'énerve jamais dans le film, même si à un moment donné il a failli perdre la bataille, il n'est jamais dépassé en fait. Donc il est toujours, en fait, il affronte les choses avec un calme, une tranquillité, une quiétude très britannique, hein, si on en croit tous les clichés qu'il y a sur nos amis anglais. Mais en même temps, il est très hautain. Il est en fait, c'est un noble, et il méprise les soldats qui sont la plupart issus du peuple. Hein. D'ailleurs, très peu sont anglais, d'ailleurs. Hein. Ça, le film insiste peu sur cet aspect, mais il y a beaucoup de Hollandais, Belges, beaucoup d'Hanovriens, de Brunswickois, etc. C'est une armée cosmopolite, et il y a très peu d'anglais. Et à un moment donné, hein, ben, il y a une scène qui est extraordinaire, il les regarde, etc. Et puis, de toute façon, on peut pas faire confiance à des hommes hein, qui sont courageux uniquement parce qu'ils boivent du gin. Donc là, je trouve qu'il livre une interprétation, comme tu dis, impériale. Et je crois que c'est aussi là une des clés du caractère exceptionnel de ce film. C'est qu'en fait, c'est deux acteurs qui sont au profil tout à fait différent. L'un est américain, l'autre est britannique. Et en fait, ça permet au réalisateur soviétique de mettre en scène un combat, si tu veux, entre deux esprits, deux hommes, deux capitaines, mais de même envergure, de même stature, de même carrure. Et on sent bien, à un moment donné, en fait, qu'il y a un respect mutuel entre ces deux hommes qui ne se connaissent pas, hein, ils se voient à très longue distance. Et là, je trouve que Plumeur, en fait, il est vraiment la némésis de Rod Steiger.
Et dans les bonus du Waterloo de Sergueï Bondarchouk, d'ailleurs, tu soulignes aussi ce que tu disais à l'instant concernant le duc de Wellington, donc Christopher Plummer, cette haine de la plèbe, qui est aussi présente aussi dans le personnage de Rod Steiger, enfin chez Napoléon, quoi. C'est un point commun.
Oui, tu as entièrement raison. Et là, c'est tout au début du film, en fait, et ça c'est très historique aussi, on aurait pu prendre ça comme exemple pour répondre à ta première question. Donc c'est la scène où il rentre sur Paris, et en fait, il manifeste une horreur quasi-physique, hein, quasi-instinctive, épidermique presque, hein, de la foule. Et en fait, il hésite, Napoléon. En fait, il a deux choix, hein, et ça, je crois que le film le restitue très bien. Soit il redevient le petit capitaine, c'est-à-dire le petit tondu, le petit caporal, etc., comme ces hommes l'appelaient. Et donc, il chausse les bottes de la Révolution. C'est-à-dire, en fait, il redevient ce qu'il a été. Enfin, c'est un révolutionnaire. Il était ami avec le frère de Robespierre. Donc, c'était vraiment un vrai jacobin, un vrai révolutionnaire, un pur, un dur. C'est son premier choix. Le deuxième choix, c'est celui qu'il va faire. Il va s'appuyer sur la bourgeoisie en disant « Je ne veux pas être l'empereur d'une nouvelle jacquerie, d'une nouvelle révolte populaire. » Et ça, je trouve que c'est sans pratiquement aucun mot. C'est extraordinairement bien représenté dans le film, quand on le voit vraiment avec ce dégoût de la plèbe, du peuple, de la populace. Et là, on voit en fait, comme je le disais tout à l'heure, hein, on n'est plus dans le mythe, on est dans l'homme.
Par rapport à Christopher Plummer, au duc de Wellington, tu parlais tout à l'heure de son flègue. Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué dans le film, sur le champ de bataille, lorsque son bras droit perd une jambe. C'est une scène absolument extraordinaire.
Tout à fait. Et c'est là qu'on voit, tu vois, on voit ce... ces deux caractères un peu qui sont portés. Je crois qu'il y a aussi un peu, on retrouve cette vieille idée en fait qu'en fonction du climat, les caractères sont très différents. C'est une idée qui vient du Moyen-Âge, hein, même de l'Antiquité d'ailleurs. Et là, donc, on voit l'empereur Napoléon Corse, plutôt sanguin, etc. Et l'anglais, quelqu'un qui vit dans les brumes, la pluie, le brouillard, etc., beaucoup plus, on va dire, pragmatique, calme, qui ne sait jamais ce qui va arriver après, mais il s'attend toujours au pire, en fait. Mais il reçoit toujours avec un sourire. Et on pourrait aussi reprendre la scène du bal. La scène du bal où on lui apprend que Napoléon a déjà franchi la frontière de la Belgique, alors qu'il ne l'attendait pas avant 2-3 jours. Et il réagit en fait comme si on lui annonçait qu'il allait pleuvoir demain. Je trouve que c'est... Il y a une force tranquille d'un côté et une force qui est en train de mourir de l'autre. En fait, c'est un film sur la force que peut avoir un homme. Donc là, il y a un homme qui est en train de mourir, qui est fatigué, et il y a un homme qui rentre enfin dans l'histoire avec un grand H en fait.
We'll be right back.
Vous écoutez l'historien Johan Chanoir au micro de Culture Prohibée. Il y a aussi des scènes de bataille qui sont titanesques. On sait que la Mosfilm, la production russe, a pu bénéficier du concours de 16 000 soldats de l'armée rouge. Il y a des scènes incroyables où on voit carrément des chevaux voler. Moi, je pense que malheureusement, ces pauvres bêtes n'ont pas survécu au tournage. Je crois qu'on a... Alors, je n'ai pas vu le Guerre épée encore de Sergueï Bondarchouk, mais je crois que je n'avais jamais vu une telle barbarie représentée à l'écran, parce que le fait que ce ne soit pas numérique, le fait qu'en plus, ce soit dans la longueur, quelque chose... Les corps deviennent lourds, comme si tout leur pesait. En plus, il y a des destinées terribles, comme ce soldat qui veut, à un moment, déserter, et puis qui est convaincu par le duc de Wellington de rester. Il le convainc avec humour... Et derrière, il y a une destinée tragique pour ce pauvre soldat. Enfin, je trouve que le film est l'un des plus impressionnants que j'ai vu en termes de bataille à l'écran, avec ses plans hallucinants et tout. Est-ce que pour toi, cette bataille telle qu'elle est montrée là est d'une grande véracité ?
Tout à fait. Alors déjà, c'est le clou du film, hein, il faut le dire. Je crois que c'est plus d'un tiers du film déjà. Ça a nécessité 48 jours de tournage. Donc c'est absolument colossal. Hein. Donc le champ de bataille a été reconstitué. Bondarchouk, hein, en fait, il filme avec des câbles, des grues, il fait construire des tours, il multiplie les caméras, il fait des plans larges, des panoramiques, des grands plans, des champs, des contre-champs, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il veut raconter, c'est une histoire, si tu veux, vue par le bas. Alors en fait, il y a deux visions. Il y a la vision des deux grands capitaines qui s'affrontent, mais qui sont d'ailleurs situés sur le même piédestal. Hein. Il prend jamais parti, en fait, Bondarchouk. Hein. C'est-à-dire qu'il est bon. Il a déjà, comme tu viens de le dire, tourné sur Napoléon Bonaparte. On le sent assez admiratif de ce grand homme, mais en fait, il ne prend pas parti. C'est-à-dire qu'il est présent tous les deux sur un même niveau, tous les deux géniaux, pour des raisons très différentes, d'ailleurs. Hein, ce qu'on expliquait avec le flemme d'un côté, et puis le caractère, on va dire, l'intuition géniale de Napoléon Bonaparte. Mais la reconstitution de la bataille est absolument colossale. Déjà, il a reconstruit les fermes fortifiées où étaient réfugiées les troupes de Wellington, d'après les plans originaux. Il a mobilisé des sources, il a fait un travail de recherche incroyable. Et en tant que, on va dire, dans la restitution, on va dire, scénographique, cinématographique de la bataille, moi je trouve qu'il rappelle ce que c'était. Parce que la bataille, avant d'être une bataille, c'est une clameur. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène où on voit à un moment donné Napoléon sur son cheval qui passe devant le rang de ses troupes et les soldats l'acclament « Vive l'empereur, vive l'empereur !» Et Wellington voit ça et Wellington fait la même chose alors qu'il déteste ses soldats. Alors que Napoléon, lui, ne les déteste pas parce que bon, la plupart sont des grognards, ils ont fait toutes les campagnes avec lui, ils l'occupent parfois, on sait bien qu'ils le connaissaient même par leur prénom, c'est quand même une armée de plusieurs milliers d'hommes, etc. C'est un vrai meneur d'hommes, etc. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que Bondarchouk, si tu veux, il nous montre pas seulement une bataille, il nous montre ce qu'est une bataille avant d'être une bataille, donc une clameur. Après, il nous rappelle que c'est d'abord un ensemble de bruits, hein, le pas des soldats, le galop des chevaux, les coups de canon, les sons des tambours, on entend même les souffles à un moment donné, c'est quand même assez incroyable. Et puis après, bien sûr, c'est la bataille en elle-même, hein, c'est-à-dire... tout le paysage sonore est mobilisé, les canonnades, les cris, les coups de fusil, etc. Et là, je trouve qu'on est immergé, et qu'on est plus au niveau des soldats. Et ça, c'est assez rare, hein, parce qu'en plus, en fait, l'historiographie, le travail des historiens et des historiennes sur les batailles, ça va arriver beaucoup plus tard que ce film. Et par exemple, John Keegan, qui est un grand historien britannique, qui enseigne dans le Saint-Cyr britannique, hein, c'est un des premiers à avoir montré justement dans un livre avec sur Azincourt, Verdun, une autre bataille, que en fait la bataille, on devait, pour la comprendre, se mettre au ras du sol. Et ça, Bondarchouk le fait au moins 4 à 5 ans avant, alors que c'est pas un historien. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait filmer quelque chose. Et en fait, enfin, moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est cloué par moments. On est cloué par ce qui se passe à l'écran, par c'est en plus la beauté des uniformes, le rouge des tenues, enfin c'est le vert, le gris, enfin je trouve que c'est une sorte de mayonnaise, un patchwork absolument incroyable. Et il y a du son, il y a de la couleur, il y a des voilà, enfin il y a plein de choses. En plus il y a des mouvements de caméra absolument saisissants, il y a des angles très 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 variés. Et donc on est vraiment, enfin moi j'ai l'impression quand j'ai revu ce film, enfin d'être plongé au cœur de la bataille.
Pour moi, mon avis est assez simple, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Donc, je trouve que c'est un film exceptionnel. Hein. Je te remercie d'ailleurs de me l'avoir fait découvrir. Moi, Bondarchuk, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas. Et du coup, là, je vais rattraper mon retard. Et j'avoue, hein, notre ami Thomas nous le disait tout à l'heure, que c'est quand même assez étonnant. Bon, il est redécouvert en gros depuis un an, là, depuis quelques années, quoi. Mais depuis l'année dernière, il y a des films qui ressortent. Bondarchuk, c'est quand même un cinéaste exceptionnel, en vérité, l'un des plus grands qui ait connu l'URSS. Donc c'est étonnant qu'on le découvre plus aujourd'hui, quoi. Je trouve ça. On a un peu de retard sur ce cinéaste.
Ben ça, je pense que c'est la guerre froide, hein, qui, même si les Français avaient beaucoup de connexions avec les studios soviétiques, hein, c'est-à-dire qu'il y avait, ça va te faire sourire, mais par exemple Léon Zitron, hein, qui était un présentateur très très connu, qui était aussi acteur, hein, qui était donc d'origine russe, très populaire en France, mais également très populaire en Union soviétique, ben, c'est un peu le symbole en fait des relations qu'il y avait entre la France et l'Union soviétique. Mais il n'en emporte pas moins que son film Guerre et Paix, hein, dont tu as parlé d'ailleurs, qui a permis après à Bondarchuk de repuiser dans un stock d'uniformes et d'accessoires absolument incroyables, c'est un très grand réalisateur, effectivement. Et alors, après la chute du mur, etc., l'implosion de l'Union soviétique en décembre 91, les grandes difficultés avec le choc libéral voulu par Eltsine, tout ça, en fait, nous a fait oublier qu'il existait un très très grand cinéma. Moi, j'ai aussi un film qui n'a rien à voir avec Napoléon, tu sais, c'est le film sur le moine qui peint des icônes, Andrei Rublev, qui est un très très grand film aussi, qu'on a redécouvert aussi récemment. En fait, il y a tout un grand cinéma soviétique qui n'est pas forcément un cinéma de propagande. Parce que là, en fait, on pourrait en discuter, mais c'est vraiment pas un film qui exalte la guerre. La citation à la fin du film de Wellington, hein, qui dit à peu de choses près, hein, je ne la connais pas par cœur, mais je pense que l'esprit est là, c'est qu'il n'y a rien de plus triste, excepté une bataille perdue, ouais, c'est ça, c'est excepté une bataille perdue, il n'y a rien de plus triste qu'une bataille gagnée.
Oui, puis il y a aussi ce soldat qui dit pourquoi, à la fin, c'est révélateur d'un point de vue sur la guerre qui est plutôt, qui dénonce une absurdité de la guerre, en fait, plutôt... Oui. Plutôt que l'inverse, quoi. C'est...
Voilà. Pour rebondir un peu sur vos propos sur le rapport de Bondarchuk à la guerre, moi je pense que c'était, à la vision de ces deux films, j'ai vu que ces deux films-là, je pense que c'était un véritable humaniste parce que la façon dont il décrit la guerre, effectivement, c'est une boucherie, mais je pense aussi à un passage qui m'a énormément marqué de Guerre et Paix, c'est un passage où un homme est sur le point d'être exécuté. Et là, je trouve que ce passage résume très bien ce qu'est la peine de mort, quand on est contre, hein, j'entends, ce qu'est vraiment la peine de mort, ce qu'elle fait à un individu qui se retrouve devant un plateau d'exécution. Et cette scène, elle est exceptionnelle. Et c'est que de la mise en scène. Et je trouve, moi, j'y ai retrouvé tout ce que je pense de la peine de mort devant cette scène. Et je pense que Bondarchuk, quand je vois ces films, quand je vois ce genre de scène, je pense que c'était effectivement un humaniste, peut-être même un pacifiste.
Oui, tout à fait. Bon, après, les gens qui regarderont, qui chercheront sur Internet, hein, ils s'apercevront quand même qu'il a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger pour Guerre et Paix, justement, et puis qu'il a toutes les décorations et citations inimaginables que donnait l'État soviétique. Et quand on regarde en fait un peu son œuvre, hein, on s'aperçoit que c'est une œuvre où il parle, comme tu dis, vraiment de l'homme, en fait. Hein. Son premier film, je crois que c'est Le Destin d'un homme. Il a fait Guerre et Paix, Waterloo, il a fait Les Cloches Rouges, il a fait Boris Godounov aussi. D'ailleurs, il joue le rôle de Boris Godounov. Mais tu as tout à fait raison, c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion sur, pas trop sur le système politique, parce qu'il ne prend pas position sur... sur la restauration de l'Empire, ce genre de choses, ou la monarchie. Il y a peut-être, à un moment donné, il y a peut-être une sorte d'indice, tu vois, mais qui est assez concluante à ce que tu viens de dire, parce qu'à un moment donné, dans la fameuse scène du bal, là, qui est filmée un peu, derrière moi, je me demande si, après qu'on regarde Stanley Kubrick, tu sais, le film, là, Barry Lyndon, à un moment donné, l'éclairage et la bougie, je me demande qui a pris l'idée sur l'autre. Ça, il faudrait qu'on vérifie un jour, quand on aura du temps. Mais à un moment donné, il y a une duchesse, une aristocrate britannique, et en fait, qui fait une sorte d'apologie de la paix. Je ne sais pas si tu te souviens, et qui a en fait une sorte de bonapartiste de salon. Hein. Mais tout ça, c'est aussi un écho, tu vois, d'un débat historique qu'il y a eu vraiment en Angleterre à l'époque, en 1815, entre, il y avait deux grands partis politiques, deux grands mouvements politiques, et il y en a un qui était plus pour la paix, avec plus pragmatique, reconnaître ce qui existait, savoir la volonté des Français de revivre un empire, et les autres qui voulaient absolument se débarrasser de Napoléon, qui était vu comme un embêteur du monde. Et là, à un moment donné, il y a aussi une réflexion d'une femme, hein, qui parce que tous les jeunes officiers, ils veulent briller aux yeux des jeunes femmes pour les épouser après, et là, la femme, elle fait une réflexion sur la guerre, et là, on trouve l'écho de ce que tu disais, en fait. Il y a vraiment une réflexion sur la guerre, hein, sur la guerre qui n'est pas belle, en fait. Parce qu'en fait, la guerre, il la filme très bien, mais il ne la rend pas belle, hein. Il n'esthétise pas à aucun moment. Et donc là, je pense que tu as tout à fait raison, hein. On voit bien, on voit émerger son point de vue, une véritable réflexion qui mériterait qu'on s'y attache davantage.
Eh bien, Johan Chanoir, on te remercie beaucoup, beaucoup. On rappelle à nos auditrices et auditeurs que cette édition... édité donc par Colored Film de Waterloo, dans laquelle tu interviens, donc le Waterloo de Sergueï Bondartchouk, est à se procurer de toute urgence. Écoutez l'historien Johan Chanoir au sujet de Waterloo de Sergueï Bondartchouk, édité par Colored Film, au micro de Culture Prohibée. Après avoir abordé en compagnie de l'historien Johan Chanoir l'incroyable, le film, le chef-d'œuvre en fait, hein, de Sergueï Bondartchouk, n'ayons pas peur des mots, Waterloo, qui est disponible donc chez Colored Film, on va rester avec un autre grand cinéaste soviétique qu'on a déjà abordé dans l'émission, alors qui œuvre dans un genre tout à fait différent, hein, qui est plus un cinéaste du fantastique, de la fantaisie, hein, on peut le dire. Je vais bien sûr parler d'Alexander Ptouchko, et je vais vous parler d'un film qui s'appelle Sampo, S-A-M-P-O, qui est édité par Artus Film. Alors Artus Film qui édite beaucoup de films de merveilleux soviétiques pour notre plus grand bonheur. Et... alors, ce film-là, il est un peu particulier parce que c'est une coproduction entre la Finlande et l'Union soviétique. Le film a un autre titre aussi, Le jour où la Terre gela, qui est en lien évidemment avec ce que raconte le film. Alors, le film se passe à une époque légendaire. On est dans l'imaginaire, on est dans la fantaisie, et on est dans le pays de Kalevala, qui est une sorte de havre de paix. Enfin, de havre de paix, en tout cas, où la beauté de la nature règne. Hein, c'est très boisé, il y a beaucoup de cours d'eau. Et dans ce
dans ce, comment dire, dans ce, ces paysages idylliques, il y a le, un certain Lemminkainen qui est assez couard en fait, et il aime la belle Annikki. Annikki a pour frère le forgeron Ilmarinen, qui est dans ce monde imaginaire le plus habile artisan du monde et le seul à connaître la recette de fabrication du sampo. Alors le sampo, c'est une sorte de corne d'abondance en vérité, et il est le seul, donc, ce garçon, cet artisan, ce frère d'Annikki, à avoir le savoir-faire pour fabriquer le sampo. Mais, pour pouvoir fabriquer le sampo, il manque un ingrédient, c'est le feu magique du pays de Pohjola. Voilà. Donc, le pays de Pohjola, lui, qui est très moche. C'est un lieu de désolation. Et qui est dirigé par une sorcière affreuse qui s'appelle Louhi, L-O-U-H-I. Et il manque le forgeron Ilmarinen pour pouvoir fabriquer le sampo. Et donc, pour attirer ce dernier dans le royaume de désolation qu'est le Pohjola, eh bien, la sorcière Louhi enlève la sœur d'Ilmarinen, donc Annikki, hein, si vous suivez toujours, à l'aide d'un manteau magique. Et donc, bah, il va falloir aller sauver la frangine. Voilà, en gros, ce que raconte cette adaptation du Kalevala, qui est vraiment un poème épique finlandais, qui est légendaire en Finlande, hein, qui est considéré comme un poème faisant, comment dire, véhiculé par les traditions orales et qui reste un grand, grand classique pour le peuple finlandais. Alors tout ça, ce que je viens de vous dire là, n'est que le début hein, d'une grande aventure, une grande aventure merveilleuse, exemple de fantaisie soviétique. Soviétique, donc matinée de Finlande. Hein. C'est un film un peu à part hein, par rapport aux autres films d'Alexandre Touchko, parce que c'est pas un film qu'il a réalisé seul, en fait. Il y a le producteur finlandais du film, Risto Orko, qui a aussi co-réalisé le film. Alors, il a certes donc donné un petit coup de main à droite à gauche, donc on sent qu'il y a des scènes un peu plus faibles que d'autres, mais enfin, ne boudons pas notre plaisir, parce que sans peau, quand même, comporte de nombreux morceaux de bravoure, telle la première tentative de vol du sampo et surtout la scène de résurrection de Lemminkainen. C'est vraiment un film à voir absolument, même s'il est un tout petit peu en dessous des autres films de Ptouchko qui avaient été déjà édités par Artus Film. Et alors, en plus là, c'est assez incroyable, puisque ce film, il n'en existait qu'une version raccourci, tripatouillé par Roger Corman, qui circulait sur un DVD Zone 1. Et la version que l'on voit là donc, est totalement inédite, cette version complète. Donc on peut remercier Artus Film de nous offrir ce très beau sampo d'Alexander Touchko. Vous écoutez Culture Prohibée spécial classique.
Ça
Je passe maintenant d'Artus Film à Carlotta Film. Carlotta Film pour une petite, un petit intermède japonais avec deux films. Deux films signés du réalisateur de Silence, hein, qui a marqué particulièrement Martin Scorsese, et de L'étang du démon, hein. Superbe film, Silence aussi, hein, dont on avait déjà parlé dans l'émission. Ce réalisateur, c'est Masahiro Shinoda. Alors, réalisateur, auteur, mais qui flirte toujours avec le genre. Et le premier film dont on va vous parler s'appelle Fleur pâle. C'est un film de 1964. C'est un film noir, en fait. C'est un film noir qui raconte le retour après 3 ans de prison suite à un meurtre d'un rival, hein, d'un voyou d'un clan adverse, du Yakuza Miraki, qui fait la connaissance dans un cercle de jeu tenu par son clan, d'une jeune femme. Une jeune femme, c'est une fleur pâle à la recherche de sensations fortes. Et il va être fasciné par cette jeune femme hors norme, vraiment particulière. Et en même temps, il va découvrir que le monde qui était le sien il y a 3 ans a profondément changé. Et bon, évidemment, Masahiro Shinoda, l'un des maîtres, hein, de la nouvelle vague japonaise, ne fait rien comme les autres. Ça ne va pas être un film noir classique, en fait. C'est un film qui va, déjà, qui va décrire vraiment le Japon d'après-guerre, en filigrane. D'ailleurs, ce film de Yakuza, il y a le Japon de l'immédiate après-guerre. Donc on peut faire un parallèle aussi avec les soldats de retour dans leur foyer, dans leur domicile. Il y a comment dire, les règles qui ont changé au sein des clans. Et il y a surtout ce personnage de jeune femme qui, en fait, on sent bien que ce qui est intéressant, c'est que ce Yakuza, le héros du film, là, on sent bien qu'il est vide. Il est comme vidé. Il se sent plus à sa place dans ce monde qui n'est plus le sien. Et heureusement, il va rencontrer cette jeune femme qu'il va rencontrer au cercle de jeu et qui est très différente du reste de cet univers qui est composé quand même de gros machos, quoi. Voilà. Donc elle est très à part et il va complètement tomber sous son charme. En plus, c'est un personnage de femme très moderne, une femme libérée. C'est une femme qui recherche toujours à transgresser. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, un très beau personnage. Et puis le film va aller jusqu'à un crescendo, jusqu'à presque une scène d'amour en vérité. Puisqu'elle est toujours à la recherche de sensations, lui, il va tuer un homme devant elle. Et c'est quelque chose qui va la fasciner. Et c'est, enfin, il faut voir ce film incroyable, hein, qui est filmé dans un noir et blanc très contrasté, pardon, et qui rejoint, hein, les thèmes habituels de Shinoda, c'est-à-dire on voit bien, en fait, sa dénonciation des sacro-saintes règles de la société japonaise, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'autre film édité par Carlotta, qui est différent parce que c'est un film là qui prend place plutôt dans l'univers du Shambara, enfin dans la dernière partie du film. Hein. Ce film s'appelle Gonza le Lancier. C'est un film beaucoup plus tardif, hein, puisque le film dont je viens de parler, Fleur pâle, est un film de 1964. Celui-là est un film de 1986. Alors là, on n'est plus dans un noir et blanc très contrasté. On n'est plus du tout dans la même esthétique. Par contre, on est sur cette même thématique de décrire le sort qui est fait aux femmes, de décrire des personnages féminins atypiques, et puis de décrire une société japonaise qui est une société aux traditions complètement dépassées, quoi. C'est l'histoire donc de Gonza le Lancier. Il est aimé de toutes les femmes, il est adulé de tous, et il gagne le droit de diriger une prestigieuse cérémonie pour son seigneur à la place de son rival, une cérémonie du thé. Voilà. Et en plus, il a même gagné le droit d'épouser la fille de son seigneur. Voilà. Donc, mais rien ne va se passer comme prévu.
Et c'est là que le film s'impose comme de nouvelle fois un pamphlet contre la tradition japonaise. Il y a même une armure qui à un moment est filmée avec insistance par notre ami Shinoda, qui renvoie au harakiri de Kobayashi. Et ça donne un film... Alors, ceux qui avaient trouvé Fleur Pâle trop contemplatif, celui-ci l'est encore plus. On va encore plus dans l'épure. Et pour, au final, se terminer, en fait, dans un affrontement digne de Baby Cart avec des geysers de sang. Enfin, c'est assez surprenant. Et ça dénote, effectivement, avec le reste du film, qui est très sobre. Donc, ce coffret Masahiro Shinoda, qui contient Fleur Pâle et Gonzalo Lancier, tous deux en 4K, hein, c'est des restaurations 4K, est disponible chez Carlotta Film et on vous le conseille vivement. Alors, en complément, toujours chez Carlotta Film, on peut trouver une version restaurée en 4K de Visage écrit, un film, une coproduction entre le Japon et la Suisse. Donc c'est un film de Daniel Schmid qui s'appelle Visage écrit. Pourquoi il s'appelle Visage écrit? Parce que tout simplement, il s'intéresse à un Onagata. Alors l'Onagata, c'est un homme qui joue des rôles de femmes dans le théâtre kabuki, puisque une loi impériale japonaise impose depuis 3 siècles que ce soit uniquement des hommes qui jouent des rôles de femmes dans le théâtre kabuki. En gros, il n'y a pas de femmes dans le théâtre kabuki, il n'y a que des hommes. Voilà, pour faire plus simple. Et le film est découpé en 4 parties, et dans le but de cerner la personnalité de Tamasaburo Bando, qui est le plus prestigieux des Onagata au Japon. Voilà. Et ça donne un film vraiment étrange, parce que c'est un film qui est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, parce que tout n'est pas réel dans le film, il y a des moments de pure fiction. Donc, on est pressé par le temps. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, ça fait un très beau complément. Ce Visage écrit, signé Daniel Schmid, est paru chez Carlotta Film. Ça fait un très beau complément au coffret Masahiro Shinoda. C'est également disponible chez Carlotta Film. Alors, un tout autre univers maintenant. Un film que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup Jean Gabin. Et ce film s'appelle Remorque. Il a été réalisé par Jean Grémillon. C'est un film de 1941, mais en fait, c'est un film dont la production a été étalée sur quasiment toute la Seconde Guerre mondiale. Le fameux décorateur Alexandre Trauner a dû partir parce qu'il avait peur pour sa vie, évidemment. Le producteur aussi, parce qu'ils étaient tous les deux juifs, hein, tout simplement. Hein. Et le film est vraiment... Alors c'est adapté d'un bouquin qui raconte la vengeance d'une femme qui témoigne contre son époux, qui a escroqué des remorqueurs venus à son secours en pleine tempête. Et le scénario écrit entre autres par André Kayat va rester globalement fidèle au livre. À bord du remorqueur qui s'appelle le Cyclone, donc le capitaine, c'est bien évidemment Jean Gabin. Alors il est marié à une femme, mais il va tomber sous le charme en fait d'une femme qu'il est censé sauver, qui est Michel Morgan. Évidemment, on reconstitue là un couple magique du cinéma, Morgan-Gabin. Et là où le film est fascinant, c'est que c'est un film, on connaît tous hein, l'histoire d'Alexis de Montcorgé durant la Seconde Guerre mondiale. Gabin part à Hollywood, il va revenir complètement changé avec les cheveux blancs, voilà. Et le film fait un formidable écho à la propre vie de Jean Gabin. Et puis surtout, le film est marqué d'une pierre blanche, c'est pour ça qu'il faut absolument revoir aujourd'hui Remorque de Jean Grémillon. C'est que c'est un film d'une grande modernité où pour la première fois on voit un Jean Gabin fragile. On voit un Jean Gabin qui manifeste l'émotion, qui manifeste les larmes. Et c'est quelque chose que Jean Gabin n'avait jamais fait, qui était un bloc de virilité. Et le final du film, même s'il a un côté un peu, on va dire cubéni, voilà, un côté un peu religieux, pas forcément des plus agréables. Le final du film, avec ce Gabin très émouvant, reste une date dans la carrière de Gabin. Il y aura vraiment un avant et un après. Donc ce classique du cinéma français qui est Remorque de Jean Grémillon et qui est disponible chez Carlotta Film. Et puis, on va terminer cette émission par évoquer très rapidement, j'avais pas spécialement prévu d'en parler, on me l'a fait parvenir et j'ai pu regarder quand même et j'ai été sidéré par la beauté plastique de ce coffret. C'est un coffret qui est consacré au cinéaste Bellatar, donc un coffret là aussi disponible chez Carlotta Film. C'est 4 œuvres très très radicales. Bellatar étant déjà un cinéaste très radical, mais alors là c'est des œuvres très radicales et très très particulières, à la fois très différentes. Alors on a un documentaire qui s'appelle Le Nid Familial de 79 qui commence par cette phrase qui est assez extraordinaire de là, ceci est une histoire vraie, mais elle n'est pas arrivée au personnage de ce film, mais elle aurait pu leur arriver. Voilà. Donc Bellatar nous met tout de suite dans une ambiance très particulière pour ce documentaire qui est en fait un témoignage terrible sur la Hongrie communiste et qui est à voir absolument. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller vite. Il y a L'Outsider de 1981 qui, alors là, très différent de son film précédent, où là, on est dans une forme de naturalisme et on est immergé dans un asile psychiatrique. Bon. Voilà, au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman est un chef-d'œuvre. L'Outsider, c'est... Ça fait presque passer Vol au-dessus d'un nid de coucou pour une bluette sympathique, je vais vous dire. Bon, ceux qui connaissent Bellatar vont pas être surpris, hein, mais voilà. Il y a Damnation, un film de 1988, où alors là, on est dans une sorte d'épure scénaristique totale. On en parlait à l'instant avec Shinoda, là, avec une épure visuelle. Là, à l'épure visuelle s'ajoute l'épure scénaristique. C'est l'histoire, en fait... d'un homme qui vit une liaison sans lendemain avec une chanteuse qui est déjà mariée à un autre homme et le tout dans un décor post-apocalyptique à façon Stalker de Tarkovsky. Voilà, il y a Thomas Roland là, qui veut se précipiter sur le coffret quand je dis ça. Et puis je termine par l'incroyable Les Harmonies Weckmeister de 2000 qui est un film sur presque une sorte de la version du film de Todd Browning Freaks, la monstrueuse parade, par Bellatar, qui raconte l'histoire d'un cirque des horreurs qui vient s'installer dans une petite ville hongroise. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Il faut vous précipiter sur ce coffret Bellatar, parce qu'on n'a plus le temps, et donc c'est disponible chez Carlotta Film. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir, chères auditrices et auditeurs. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.